Je crois qu'il est assez évident que le pape est accueilli avec un très grand intérêt et beaucoup de passion aussi en Israël, il faut bien le dire. Une visite qui ne laisse personne indifférent. Je crois qu'on peut s'apercevoir qu'une très très grande partie de la population l'accueille chaleureusement. On a vu aujourd'hui dans tous les quotidiens israéliens des titres en latin, ce qui n'est pas banal dans la presse hébraïque, n'est-ce pas ? Donc des titres en latin qui accueillent le pape. Il y a aussi des jeux de mots sur le nom de Benoît, Benedictus, bienvenue. En hébreu, ça sonne mieux, mais enfin, vous voyez un peu le genre. Ceci dit, évidemment, personne ne cache les points qui grincent un peu. Le passé du peuple, l'affaire Williamson, l'affaire P12, tout cela est débattu très librement dans la presse et en public. Mais je crois que globalement, on peut voir que cette visite suscite un très grand intérêt. Et que les gens se penchent sur sa signification avec une soif d'en savoir plus. Et surtout, je crois qu'on peut voir que les gens sont sensibles au message du pape, c'est-à-dire une visite dans l'esprit de la fraternité et de la paix. Les gens y sont très sensibles.
Alors cet intérêt a étonné plusieurs personnes, plusieurs observateurs. Effectivement, on sait qu'il y a quand même des sujets qui fâchent et on peut se demander en quoi cela peut favoriser, je ne sais pas, le règlement ou le dépassement de certaines situations très douloureuses actuellement dans la région.
Écoutez, la visite en elle-même ne peut pas, comme d'un coup de baguette magique, résoudre des problèmes politiques qui datent quand même de quelques décennies, voire plus. Mais c'est une visite qui a le mérite de pouvoir rassembler. Par le fait du message religieux, du message œcuménique, du message du pèlerin, le pape essaye de rassembler, et je crois que c'est ce message-là qui est entendu par les juifs, les chrétiens, les musulmans. Ça ne suffit pas, évidemment, je le répète, pour parvenir à des accords politiques, mais ça donne une certaine ambiance, ça permet de montrer un certain horizon. Et je crois que là réside l'importance de cette visite du point de vue, si vous voulez, politique. Lorsque le pape vient en chef d'État, il vient aussi en pèlerin, il vient aussi en tant que chef de l'Église. Il y a un message d'État à État, il est reçu en tant que chef d'État, mais c'est en même temps le chef de l'Église catholique et il porte un message pour le peuple juif, pour les musulmans. Il y a un message religieux d'entente et de fraternité. Tout cela ensemble permet, je crois, de créer une ambiance de fraternité. Je le répète, cette ambiance ne suffira pas à elle seule à dépasser les problèmes politiques, mais elle permet d'entrevoir un horizon. Et je crois que le mérite du message du pape est bien là, d'indiquer un horizon qui pourrait être un horizon commun pour les juifs, les chrétiens et les musulmans dans cette région, qui peut permettre un état d'esprit propre à négocier un accord de paix.
Alors le pape peut rassembler, mais on a vu quand même qu'il avait suscité quelques divisions. On a vu que du côté des Palestiniens, il y avait un certain mécontentement. Certains auraient souhaité boycotter cette visite ou critiquent les mesures de sécurité prises par les autorités palestiniennes, etc. Enfin, vous connaissez la thématique aussi bien que moi. Une certaine presse parle aussi de mission impossible pour le pape. J'ai lu ça aussi comme titre. Vous, comment vous réagissez à tout cela ?
Nous sommes bien au Proche-Orient et nul n'ignore que l'accord de paix n'est pas encore au coin de la rue. Donc on ne doit pas s'étonner qu'il y ait des dissensions, des désaccords et des divisions et que la visite du pape, comme d'ailleurs d'autres visites de personnalités d'importance, ont donné l'occasion pour certains de marquer leurs différences, de tenter d'approfondir les divisions, de lancer des discours enflammés en faveur de tel point de vue ou l'autre, parfois avec plus d'opportunisme, parfois avec un peu d'honnêteté, mais c'est pas grave, c'est la nature de cette région que de susciter un débat, des passions, je l'avais bien dit, de toutes sortes et de toutes natures, des désaccords aussi. Oui, effectivement, il y a ceux qui ont essayé de capitaliser la visite, de tenter de l'exploiter à des fins politiciennes. C'est un fait. Ça a été aussi le cas dans d'autres... la visite du candidat Barack Obama l'a été également. La visite du président américain George Bush l'a été également. La visite du président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été également l'objet de certaines tentatives d'exploitation. C'est la politique, voilà. Et le pape est également chef d'État, donc il est également un homme politique. On ne peut pas ignorer qu'en tant qu'homme politique, une visite de ce genre puisse tomber parfois dans certains pièges ou puisse être exploitée par certains pour faire avancer des messages qu'on jugera plus ou moins opportuns ou plus ou moins propagandistes.
Les autorités israéliennes n'ignorent pas non plus que le Saint-Siège en tant que tel et l'Église catholique en général se sont montrés plutôt contraires au mur de séparation qui a été érigé. Est-ce que cela, ce type de questions, vous embarrasse le gouvernement israélien ?
Non, pas du tout, parce que notre position là-dessus a toujours été très claire. C'est un obstacle physique dont la nécessité nous a été imposée par les infiltrations répétées de kamikazes. Cet obstacle doit stopper les infiltrations. Il l'a fait. Il restera là tant qu'il n'y ait pas de garantie de sécurité de l'autre côté qui puisse permettre de l'enlever. C'est tout. Que le Vatican ait pu avoir une position politique qui d'ailleurs a été celle de la plupart des pays européens ne gêne pas. On a peut-être des désaccords politiques. On peut peut-être juger la position des uns et des autres. Nous pouvons juger que la position des Européens là-dessus n'a pas été d'une intégrité parfaite. Elle a été marquée d'un certain aveuglement quand même. Mais je crois que ce n'est pas l'essentiel de la visite. On a aussi des points de vue assez divergents sur un certain nombre de dossiers importants politiquement. Ça ne doit pas empêcher cette visite de se dérouler sous le signe de la fraternité. On peut, quand on est amis, on peut se dire des choses, on peut ne pas être d'accord sur certains points sans pour autant oublier que sur le fond, c'est quand même l'amitié et la fraternité qui prévalent.
J'insiste, je reviens sur vos mots, l'amitié, donc vous confirmez, on peut parler d'amitié ?
Oui, on peut parler d'amitié, parfaitement. On peut parler d'amitié sans ambiguïté, malgré et peut-être grâce à ces divisions et à ces différences dont vous avez parlé. Parce que l'amitié, la vraie, dans la vraie vie, ce n'est pas une sorte de relation angélique où tout baigne dans l'huile. Ça n'existe que dans certains films, et encore pas les meilleurs. La véritable amitié peut dépasser les remous et les hauts et les bas de la vraie vie, parfois les sentiments d'amertume et de déception. Mais si le vrai fond d'amitié et de fraternité est là, il persiste, il reste, il se maintient, il se confirme, et cette visite le confirme.
Dernière question. Benoît XVI à Yad Vashem et au mur des lamentations, 9 ans après la visite historique de Jean-Paul II, quelle est la signification de ces gestes pour vous ?
Très symbolique, bien entendu. D'abord, le pape Yad Vashem, c'est quand même très fort. C'est un signe de rapprochement et de fraternité face à la mémoire de la plus grande catastrophe du peuple juif dans sa très longue histoire. Une catastrophe sans précédent dans l'histoire du genre humain, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Et donc, une symbolique toute particulière lorsqu'il s'agit d'un pape allemand. Surtout d'un pape dont on connaît l'histoire de la jeunesse, une histoire qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et je crois que ça sera une visite lourde de symbolisme. Ensuite, le pape face au mur des lamentations. Là encore, je crois que le moment le plus fort de la visite de Jean-Paul II a été son recueillement devant le mur des lamentations. Le petit mot qu'il a introduit entre les grandes pierres du mur. Je crois que le recueillement prévu de Benoît XVI sera également un moment très fort. Et il symbolisera à lui tout seul la fraternité judéo-chrétienne et aussi l'origine commune sur laquelle ce pape insiste, comme son prédécesseur, et qu'il ne faudra jamais oublier, quelles que puissent être nos divergences de vues sur des points politiques ou autres à l'avenir.
Le fait que le pape soit allemand et qu'il était enrôlé de force dans les jeunesses hitlériennes, ça pèse quand même.
Oui, ça pèse. On ne peut pas le nier. On peut voir cette question évoquée dans toute sa force dans la presse israélienne, dans les médias israéliens. Certains comprennent la complexité de la situation et voudraient la dépasser, surtout en se basant sur ce que le pape avait fait pendant toute sa vie, avant de devenir pape, bien sûr, pour le rapprochement et l'entente judéo-chrétienne. D'autres insistent sur cette jeunesse hitlérienne et sont moins disposés à oublier ou à pardonner. Bon, chacun adopte sa position et son point de vue. Ces points de vue dépendent aussi des histoires personnelles des gens en question. On ne peut pas comparer le jugement que porte un rescapé de l'Holocauste que celui d'un jeune qui est né en Israël, déjà dans un État libre et indépendant. Donc il faut comprendre la complexité des points de vue pour comprendre la diversité de ces jugements et l'intensité du débat dans les médias et dans le public israélien. Mais je le répète, c'est un débat qui existe, mais qui ne cache pas la passion et l'intérêt que porte la population pour cette visite.